Lettre 34. Continuation de la lettre d'Evelina. Howard Grove, 15 mai. Le capitaine est insatiable. Si nous le laissions faire, il tourmenterait la pauvre Madame Duval à mort. Il ne connaît d'autre plaisir que celui de l'effrayer et de la mettre en colère, et il s'étudie nuit et jour à inventer quelque nouveau stratagème. Madame Duval, gardant encore le lit hier matin, ne descendit point pour déjeuner. Le capitaine profita de son absence pour nous donner à entendre qu'il la croyait suffisamment remise et en état de soutenir les fatigues d'une nouvelle attaque. Il était facile de deviner son intention et un coup d'œil significatif jeté à Sir Clément aida encore à l'expliquer. Je résolus d'abord de prévenir de nouvelles entreprises de sa part et je suivis Madame Mirvan dans une salle voisine pour la prier de s'employer en faveur de Madame Duval sans perdre de temps auprès du capitaine. « Ma chère, me répondit-elle, je me suis déjà expliquée avec lui, mais tous mes efforts seront inutiles tant qu'il sera encouragé par les conseils de son ami Clément. » « Dans ce cas, répliquai-je, permettez que j'aille parler à Sir Clément. Je suis sûre qu'il se désistera de ses projets si je l'en prie. » « Prenez-y garde, ma chère, il est dangereux quelquefois de faire des prières aux hommes. »« Eh bien, madame, souffrirez-vous donc que j'intercède pour Madame Duval auprès du capitaine ?»« Volontiers, et même j'irai le trouver avec vous. » Je la remerciai et nous sortîmes ensemble pour le chercher. Il se promenait dans le jardin avec Sir Clément. Madame Mirvan eut la bonté de se charger des premières ouvertures. « Voici, lui dit-elle, une suppliante que je vous amène. »« Et que me veut-elle? De quoi s'agit-il ?» Je tremblais de le fâcher et, tout en bégayant, je lui dis que j'espérais qu'il n'était pas question d'un nouveau plan pour tourmenter encore Madame Duval. « Un nouveau plan? Et croyez-vous que nous reprendrons encore une fois le premier ? Non qu'il n'ait été excellent, mais je doute qu'elle y morde une seconde fois. » « En effet, monsieur, elle n'a que trop souffert déjà, et vous me pardonnerez si je vous avoue qu'il est de mon devoir de faire tout ce qui dépend de moi pour prévenir de pareilles scènes dans la suite. » Un air sombre et irrité couvrit son front aussitôt. Il me tourna brusquement le dos et me dit que je pouvais faire ce qu'il me plairait, mais qu'il m'assurait que j'aurais lieu de me repentir de mon zèle plutôt que de m'en applaudir. Cet accueil me déconcerta trop pour être tenté de répondre au capitaine. Mais comme je voyais que Sir Clément défendait ma cause avec chaleur, je me retirai et je les laissai discuter l'affaire entre eux. Madame Mirvan, qui a toujours soin de fuir son mari quand il est de mauvaise humeur, me suivit d'abord et me fit, avec sa politesse ordinaire, mille excuses du refus impoli que j'avais essuyé. Je fis après cela une visite à Madame Duval, que je trouvai levée et occupée à examiner les débris de sa garde-robe. Elle passa en revue toutes les pièces qui avaient servi à son ajustement le jour de sa malheureuse aventure. Chaque lambeau renouvela sa douleur et lui fournit matière à de nouvelles lamentations. Elle est toujours très fâchée contre le capitaine, uniquement parce qu'il se plaît à la tourner en ridicule. Madame Mirvan est parvenue à lui faire renoncer au dessein de poursuivre en justice les prétendus voleurs. Une telle recherche n'aurait pu manquer de faire du bruit dans le voisinage et de compromettre le capitaine. Madame Mirvan a représenté à Madame Duval l'inutilité de ses perquisitions, à moins qu'elle ne fût en état de donner des indices plus sûrs. Ce qui serait d'autant plus difficile qu'elle n'a vu ni entendu parler ceux qui l'ont attaquée. Madame Duval, en me rapportant ces détails, se plaignit amèrement de la dureté de son sort, qui lui ôtait même jusqu'au plaisir de se venger. Elle protesta cependant qu'elle n'empocherait pas lâchement l'affront qu'elle avait reçu, mais qu'elle se consulterait avec M. Dubois sur les mesures qui lui restaient à prendre contre les coupables. Pendant cette conversation, elle acheva sa toilette. Jamais je ne vis une femme aussi difficile à contenter et d'une coquetterie aussi raffinée. Le soin de se parer semble être sa première occupation. En la quittant, je rencontrai Sir Clément qui, d'un air fort empressé, me demanda un moment d'entretien. Il ajouta que les choses importantes qu'il avait à me communiquer rendaient cette complaisance indispensable. Et, sans attendre ma réponse, il me conduisit au jardin. Je refusais absolument de le suivre plus loin que jusqu'à la porte. Il prit un visage sérieux et me dit d'un ton de voix fort grave « Enfin, Miss Anville, je me flatte d'avoir trouvé un moyen de vous obliger et je vais le mettre en usage, quelque peine qu'il m'en coûte. » Je le priai de s'expliquer. « J'ai vu le zèle avec lequel vous vous êtes employé en faveur de Madame Duval et j'ai été sur le point de reprocher au capitaine sa conduite barbare. Mais je dois éviter de me brouiller avec lui de peur qu'il ne m'interdise l'entrée d'une maison que vous habitez. J'ai fait tous mes efforts pour l'engager à renoncer à un nouveau projet qu'il médite. Mes représentations ont été inutiles et même il m'a été impossible de lui arracher son secret. » Ainsi, j'ai résolu de chercher un prétexte pour quitter incessamment ce château qui m'est devenu si cher, qui renferme tout ce que j'ai de plus précieux au monde. Je retourne à Londres pour laisser au caractère impétueux du capitaine le temps de se ralentir. » Il s'arrêta et je gardai le silence, ne sachant que répondre. Il prit ma main et la baisa. « Faut-il donc vous quitter, Miss, sacrifier volontairement le plus grand bonheur de ma vie ?» sans être honoré d'un seul mot, d'un seul regard d'approbation ? » Je retirai ma main et je lui répondis en souriant. « Vous connaissez trop bien, monsieur, le mérite de votre complaisance pour qu'il soit nécessaire que je l'apprécie encore. » Charmante créature, avec tant d'esprit et tant de perfection, suis-je le maître de vous quitter ? N'y aurait-il pas un moyen ? Comment, monsieur, vous repentez-vous si vite du bien que vous prétendiez faire à Madame Duval ? Ah, Madame Duval, cruelle, vous ne souffrez donc pas seulement que je vous fasse honneur du sacrifice auquel je vais me résoudre ? Monsieur, vous l'attribuerez à qui il vous plaira, mais je suis trop pressée pour demeurer plus longtemps avec vous. » Je voulus m'en aller, mais il me retint de force. Si je ne suis donc pas assez heureux pour obliger Miss Anville, elle ne sera pas surprise que je cherche à m'obliger moi-même. Et si mon projet n'obtient pas l'approbation de celle pour qui il était formé, je l'abandonne, puisque de tous côtés j'y trouve du désavantage. » Nous gardâmes tous deux le silence pendant un moment. J'aurais été fâchée de voir échouer un plan qui rompait si efficacement les mesures du capitaine, et en même temps je ne voulus point désobliger Sir Clément. Peut-être, sans les remontrances de Madame Mirvan, aurais-je accepté sa proposition sur le champ. Cependant, comme il insistait sur une réponse, je lui dis d'un ton ironique « J'aurais cru, monsieur, que la haute idée que vous attachez à vos services suffirait pour vous dédommager, mais puisque je me suis trompé, il faut bien que je vous en remercie moi-même. En voilà assez, j'espère, pour vous contenter. » « La plus aimable des femmes, » reprit-il. Mais je ne lui laissai pas le temps d'achever et je me retirai promptement. Miss Mirvan ne tarda pas à m'informer que Sir Clément venait de recevoir une lettre qui l'obligeait à partir sans délai, que sa chaise était même déjà commandée. Je crus devoir la mettre au fait des raisons qui donnaient lieu à ce prompt départ. Je n'ai point de secret pour cette aimable fille, et c'est de bien bon cœur que je l'ai choisie pour ma confidente. Au dîner, nous nous aperçûmes tous de l'absence de Sir Clément. Car, malgré la légèreté de sa conduite à mon égard, je dois avouer qu'il est de bonne société et d'un commerce agréable. Le capitaine surtout est désolé d'avoir perdu le compagnon de ses exploits. Il ne dit plus le mot. Madame Duval, au contraire, qui commence à reparaître en public, est enchantée de ne plus voir un de ses puissants antagonistes. On nous a rapporté l'argent que nous avions laissé en dépôt chez le fermier. Combien de peines et de soins il doit en avoir coûté au capitaine pour tramer cette entreprise scandaleuse. Mais il court grand risque d'être découvert. Madame Duval a reçu ce matin une lettre de M. Dubois et elle est fort intriguée de ce qui ne parle pas de son emprisonnement. Jusqu'ici, elle s'imagine que son ami a ménagé ce silence de peur que sa lettre ne fût interceptée. Je n'ai pas trouvé une seule fois l'occasion de demander à Sir Clément des nouvelles de Mylord Orville. Il me semble qu'il en aurait bien pu dire un mot de son propre chef. Il est singulier aussi que Madame Mirvan n'ait pas pensé à s'informer de ce cavalier, auquel elle a fait cependant une attention particulière. Maintenant, toutes mes idées se tournent involontairement vers cette réponse que nous attendons de Paris. La visite de Sir Clément a du moins contribué à me distraire dans un moment où j'avais besoin de dissiper mes chagrins. Je dois donc lui savoir gré de ce qu'il a si bien pris son temps. Adieu, mon cher monsieur. Lettre 35. Sir John Belmont à Lady Howard. Paris, 11 mai. Madame, je viens de recevoir la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire et je ne perds pas un instant pour y répondre. On peut passer pour saint et avoir bien des défauts. On peut également être peint sous les couleurs les plus odieuses sans être dépouillé de tout sentiment d'humanité. C'est, madame, une vérité dont je me flatte de vous convaincre d'un peu relativement à M. Villard et à moi. Quant à la jeune demoiselle qu'il se propose de me présenter si obligeamment, je lui souhaite tout le bonheur auquel elle semble avoir des droits par la protection dont vous l'honorez. Et pourvu seulement qu'elle ait une partie du mérite de la personne à laquelle vous la comparez, madame, je ne doute pas que M. Villard ne réussisse aisément à établir sa fortune dans la suite. Mais je lui conseille de s'adresser autre part que chez moi, de la préférence dont il lui plaît de me favoriser, etc. John Belmont. John Belmont. Lettre 36. Evelina à M. Villard. Howard Grove, 6 mai. Tout est dit, mon cher monsieur. La lettre attendue avec tant d'impatience est enfin arrivée et mon arrêt est prononcé. Je n'ai point de parole pour vous dire le poids de la douleur qui m'accable. Vous qui connaissez mon cœur, qui l'avez formé, vous sentirez aisément quelle doit être ma situation dans ce moment décisif. Rebuté, rejeté pour jamais par celui auquel j'appartiens de plein droit, vous demanderai-je encore votre protection ? Non, monsieur, je n'offenserai point votre générosité par une prière qui semblerait impliquer des doutes. Je sais que vos bras paternels me sont encore ouverts. Je sais que votre premier souhait est d'adoucir mes chagrins. Et puisque vous me restez seul pour toute consolation, je suis plus sûr que jamais de vos bontés. Je tâche de supporter ce coup avec résignation, et vos conseils me sont déjà d'un grand secours, même avant que je les aie reçus. Mais jusqu'ici, cette secousse est trop forte pour mon pauvre cœur. Quelle lettre, monsieur, de la part d'un père ! Il faudrait que je fusse sourde à la voix de la nature si j'étais insensible à l'abandon auquel il me condamne. Je n'ose vous avouer, je n'ose m'avouer à moi-même toutes les idées qui m'assiègent quelquefois, et j'ai de la peine à m'en défendre. La dureté de ce procédé m'inspire des sentiments qui sont difficiles à concilier avec mon devoir. Qu'il me soit permis cependant de vous le demander, cette réponse ne pouvait-elle pas être adoucie ? Ne suffisait-il pas de me renoncer pour toujours, sans me traiter avec mépris, sans ajouter une si cruelle dérision ? Mais tandis que je vous entretiens de l'impression que cet événement produit sur mon âme, je ne puis m'empêcher de faire un retour sur ce père lui-même. Hélas, comment pourra-t-il supporter les angoisses qu'il se prépare pour le temps ? Mon cœur saigne pour lui toutes les fois que je fais cette réflexion. Et dans quel terme il parle de vous, mon protecteur, mon ami, mon bienfaiteur ? Juste ciel, quelle récompense pour tant de bonté ! En vain, je cherche à détourner mes pensées d'un sujet aussi affligeant. Je prévois malheureusement que cette lettre ne terminera point la querelle, quoiqu'elle renverse d'un seul coup toutes mes espérances. Madame Duval est résolue à n'en pas demeurer là. Elle est extrêmement irritée et elle proteste que Sir Belmont n'en sera pas quitte à si bon marché. Ce sont ses propres expressions. Elle regrette la facilité avec laquelle elle a abandonné la direction de cette affaire à des gens qui ne s'y entendaient pas. Elle jure qu'elle ne prendra plus conseil que d'elle-même. Je me suis récriée, comme de raison, contre ces projets violents et je l'ai suppliée de nous épargner les poursuites qui ne serviront qu'à aigrir les esprits. Je lui ai représenté que ce ménagement est d'autant plus convenable que la lettre de Sir Belmont semble insinuer qu'il se propose de reprendre cette affaire dans la suite avec Lady Howard. Tous mes efforts ont été inutiles. Madame Duval s'est attachée à un plan dont l'idée seule m'effraie déjà. Elle prétend me conduire à Paris, me présenter à mon père et me faire justice sur les lieux mêmes. Je ne conçois pas l'art d'apaiser cette femme, mais pour tout au monde, je ne souffrirai pas d'être traînée ainsi sous les yeux redoutables d'un père que je n'ai jamais vu. La tournure fâcheuse que cette négociation a prise semble concerner Lady Howard et Madame Mirvan. Elle redouble d'attention pour moi. Ma chère Marie, l'amie de mon cœur, fait tous ses efforts pour me consoler. Quelquefois, elle manque son but, mais alors elle partage mes peines. Je suis fort aise de ce que le départ de Sir Clement Willoughby ait précédé l'arrivée de la lettre. La confusion générale qui règne dans la maison n'aurait pas manqué de lui révéler un secret que je suis plus intéressée que jamais de voir ensevelir dans le plus profond oubli. Lady Howard me conseille de ménager Madame Duval, mais elle désapprouve la démarche qu'elle médite. Je mourrais plutôt que de l'accompagner dans ce voyage. Cependant, elle est d'un caractère si violent qu'elle eût souhaité de partir sur l'heure avec moi si Lady Howard lui avait fait sentir que je ne pouvais pas quitter sa maison sans votre consentement. Ce refus l'a beaucoup indisposée et les railleries que le capitaine y a ajoutées l'ont poussée au point de déclarer que, si dans votre première lettre vous persistiez à lui disputer le droit de me diriger selon son bon plaisir, elle se rendrait incessamment à Berry Hill pour vous apprendre à connaître qui elle est. Si effectivement Madame Duval pensait à réaliser cette menace, j'en aurais de l'inquiétude. Les emportements de cette femme et la volubilité de sa langue ne sont pas faits pour vous. Incapable d'agir par moi-même ou de discerner la route qu'il me convient de suivre, que je suis heureuse d'avoir un ami tel que vous, duquel il m'est permis de prendre conseil. Adieu, mon cher monsieur, dussé-je être rejeté et méprisé par tout le monde, vous me resterez du moins. Lettre 37. Monsieur Villard à Evelina. Berry Hill, 5 mai. Ne vous laissez point abattre, ma chère Evelina, par un coup du sort dont vous n'êtes pas responsable. Ce n'est point pour avoir manqué à vos devoirs, ni même par inconsidération, que vous vous êtes attiré la disgrâce qui vous afflige. Vous êtes à l'abri de tout reproche, cela doit vous suffire. Munissez-vous, mon enfant, du courage qu'inspire l'innocence et laissez votre tristesse à celui qui en est l'auteur. Il ne sentira que trop un jour les remords de sa conscience. Ce que Sir Belmont dit de moi dans sa lettre m'est absolument inintelligible. Mon cœur, j'ose le dire, ne me reproche aucun vice. Mais ai-je jamais prétendu passer pour un homme sans tâche ? Quoi qu'il en soit, il semble nous promettre dans la suite une explication plus précise. J'attendrai cette époque, et s'il paraissait alors que j'ai contribué par ma faute aux calamités que nous pleurons aujourd'hui, je serai tout aussi frappé de cette découverte que ceux de mes amis qui mettent le plus de confiance en ma probité. Cette autre phrase, où il parle de la fortune que je pourrais vous trouver dans la suite, passe également mon intelligence. Mais je m'abandonne à des réflexions qui, naturellement, doivent rouvrir les plaies de votre cœur. Je finirai par vous faire remarquer qu'il règne dans toute cette lettre un air de mystère que le temps seul peut expliquer. Le projet de Madame Duval est tel qu'on devait l'attendre d'une femme ennemie de toute contradiction, et d'ailleurs entièrement incapable de sentir la délicatesse de votre position. J'approuve très fort la répugnance que vous lui avez témoignée pour l'exécution de son plan et votre façon de penser à cet égard est parfaitement d'accord avec la mienne. Que Madame Duval entreprenne seule ce voyage et personne ne s'y opposera. Ce serait le plus sûr moyen de rendre à mon Evelina cette heureuse tranquillité que sa présence a renversée. Quant à la visite qu'elle me destine, je l'en dispenserai volontiers sans doute. Mais si elle est décidée à ne pas se contenter du refus que je lui ferai par lettre, elle peut venir prendre celui que je lui prépare de bouche. Les détails que vous me rapportez du séjour de Sir Clement Willoughby me font souhaiter plus que jamais votre prompt retour. Je suis peu surpris de l'opiniâtreté qu'il met dans ses assiduités, mais je suis choqué des familiarités dont il les accompagne. Vous ne sauriez, ma chère, être trop sur vos gardes. Cet homme est d'un caractère à tirer avantage de la moindre imprudence que vous pourriez commettre. Il ne vous suffit pas d'être réservé avec lui, sa conduite exige du ressentiment. Et s'il s'avisait encore, comme il n'y manquera pas, de vous proposer des entrevues particulières, marquez-lui votre mépris et votre mécontentement, dans des termes qui soient capables de lui faire changer de manière. D'ailleurs, je vous préviens que si ces visites étaient répétées, votre séjour à Howard Grove ne pourra plus être de longue durée. Lady Howard sera la première à reconnaître que votre départ deviendrait nécessaire. Adieu, mon cher enfant. N'oubliez pas de présenter mes devoirs à la famille respectable à laquelle nous avons tant d'obligations. Lettre 38. Monsieur Villard à Lady Howard. Berry Hill, 27 mai. Madame, la visite de Madame Duval que j'ai à vous annoncer aujourd'hui ne saurait être une nouvelle inattendue pour vous. Elle n'aura pas manqué de vous informer de ses desseins avant son départ. J'aurais désiré d'être dispensé de cette entrevue, mais je n'ai pu l'éviter décemment. Il n'était guère possible de renvoyer cette dame sans l'entendre. Elle me dit qu'elle s'était déterminée à faire le voyage de Berry Hill d'après la défense que j'ai faite à sa petite fille de la suivre à Paris, et elle me demande raison de l'autorité que je prétendais m'attribuer. Pour peu que j'eusse été disposé d'entrer en conversation avec elle, je l'aurais trouvée prête à disputer des titres valables que j'aurais pu alléguer. Mais mon intention étant d'éviter des débats inutiles, je pris le parti de l'écouter tranquillement. Et lorsque je remarquai qu'elle était lasse de parler, je la priai du plus grand sang-froid de me mettre au fait du motif de sa visite. Elle me répondit qu'elle venait pour me démettre du pouvoir que je m'étais arrogé sur sa petite fille, et elle protesta qu'elle ne quitterait point ma maison sans y avoir réussi. Je m'abstiendrai de vous rapporter, madame, les détails de cette conversation désagréable. Je me bornerai à vous rendre compte du résultat de notre entrevue. Madame Duval, voyant que j'étais fermement résolue de m'opposer au départ de Miss Evelina pour Paris, insista sur ce que ma pupille demeura du moins avec elle à Londres jusqu'au retour de Sir Belmont. Je combattis ce nouveau projet avec toute la force dont j'étais capable. Mais mes représentations n'aboutirent à rien, je perdis mon temps et elle sa patience. Elle finit par me déclarer que de ce pas, elle irait faire son testament pour léguer à des étrangers tout son bien, qu'elle laisserait sans cela sa petite fille. Cette menace aurait produit peu d'effet sur moi. Je suis persuadée depuis longtemps qu'avec le seul nécessaire que je puis lui assurer, mon Evelina serait aussi heureuse que si elle était riche à millions. Mais l'incertitude de son sort m'empêcha de suivre à la lettre le plan que je m'étais prescrit. Les liaisons qu'elle pourrait former dans la suite, le genre de vie pour lequel elle pourrait être réservée, la famille où elle pourrait entrer un jour, toutes ces raisons ajoutèrent du poids aux menaces de Madame Duval. Et après des discussions infiniment fatigantes, cette femme intraitable m'arracha enfin la promesse de lui céder ma pupille pour un mois. Je ne me souviens pas d'avoir jamais accordé une demande d'aussi mauvaise grâce et avec plus de répugnance. Je n'avais que trop de raisons pour persister dans mon refus. Le caractère emporté de la Duval, ses bassesses, sa grossière ignorance, ses liaisons de famille, les mauvaises sociétés qu'elle fréquente, voilà, je crois, des objections plus que suffisantes. Mais, de notre côté, avais-je le droit de frustrer mon Evelina d'un héritage immense qui dépendait de mon consentement? Cette seule considération m'a décidé, et nous nous sommes quittés très mécontents l'un de l'autre. Il me reste à vous remercier, madame, de toutes les bontés que vous avez eues pour ma pupille pendant son séjour à Howard Grove, et à vous prier de la laisser partir lorsque madame Duval jugera à propos de réclamer la promesse qu'elle m'a extorquée. Je suis, etc., Arthur Villard. Lettre 39. Monsieur Villard à Evelina. Berry Hill, 28 mai. Madame Duval a réussi à m'arracher un consentement qui me coûte bien des regrets. Vous quitterez, ma chère, la respectable Lady Howard pour retourner dans une ville où je n'espérais pas de vous voir entrer de si tôt. Hélas, mon enfant, faut-il que nous soyons si souvent les esclaves du préjugé et des circonstances? Faut-il céder au torrent, lors même que la raison désapprouve notre conduite? Vous sentez bien que cette résolution doit avoir été déterminée par de grands motifs, et, puisque l'affaire est une fois conclue, tâchons du moins d'en tirer le meilleur parti possible. Voici le moment de vous armer plus que jamais de prudence. Le mois que vous allez passer avec Madame Duval sera pour vous un temps d'épreuve. Quand même elle ne serait pas capable de vous donner de mauvais conseils par méchanceté, vous devez pourtant être sur vos gardes et vous défier de son peu de jugement. Accoutumez-vous à juger et à agir par vous-même. Et si l'on vous proposait des démarches ou des projets incompatibles avec votre devoir, rejetez-les hardiment et ne risquez point, par une trop grande facilité, d'encourir la censure du public et de vous préparer des regrets pour l'avenir. Ayez des attentions pour Madame Duval, mais fuyez autant que vous pourrez ses sociétés. Les personnes qu'elle fréquente ne sont ni d'un rang, ni d'une éducation à vous faire honneur. Souvenez-vous, mon Evelina, qu'une bonne réputation est ce qu'une femme a de plus cher au monde. Mais aussi, rien de plus délicat et de plus fragile. La moindre tâche suffit pour la flétrir. Adieu, mon enfant, je ne retrouverai le repos que dans un mois. Arthur Villars. Lettre 40. Evelina à Monsieur Villars. Londres, 6 juin. Je vous écris de nouveau, mon cher monsieur, de cette grande ville. Hier matin, j'ai eu la douleur de quitter nos amis de Howard Grove et il me tarde déjà de les revoir. Lady Howard et Madame Mirvan prirent congé de moi en me donnant les preuves les plus flatteuses de leur affection. Les adieux de Marie étaient déchirants. Que cette séparation nous parut dure! J'ai promis à cette excellente fille de lui écrire régulièrement par chaque courrier. Je mettrai dans cette correspondance la même franchise et la même confiance dont vous me permettez de faire usage dans la nôtre. Je n'ai pas à me plaindre du capitaine. Il m'a traité avec honnêteté, mais il n'a pas discontinué de se quereller avec Madame Duval jusqu'à la dernière minute. Au moment où j'allais monter en voiture, il me tira à part et me dit « Écoutez, Miss Anville, j'ai une grâce à vous demander. C'est de nous marquer mot à mot ce que la vieille Française dira lorsqu'elle saura que tout ceci n'a été qu'un jeu. N'oubliez pas non plus de nous donner des nouvelles de ce gros lourdeau de Dubois. » Je lui répondis que je ferais mon possible pour le satisfaire. Mais cette commission me déplaît beaucoup et je m'en acquitterai mal. Je ne suis pas faite au métier de rapporteur et je ne suis guère tentée de me mêler des extravagances du capitaine. Dès que nous fûmes partis, Madame Duval exprima son contentement dans un monologue que je vais vous transcrire. « Dieu soit loué, m'en voici dehors. Quel séjour que ce Howard Grove ! Non, jamais je n'y retournerai. Trop heureuse d'en être échappée saine et sauve. Car depuis le moment où j'ai mis les pieds dans cette maison, il n'y a sorte de guignon que je n'ai éprouvé. D'ailleurs, c'est bien l'endroit le plus triste qui puisse exister dans toute la chrétienté. Nul divertissement, nul plaisir. » À cette exclamation succédèrent des plaintes amères sur le sort de Monsieur Dubois, et des conjectures sur l'accident qui lui était arrivé occupèrent Madame Duval pendant tout le reste du voyage. Je lui demandai dans quel quartier de Londres nous logerions. Elle me répondit qu'elle avait chargé M. Brompton de nous chercher des chambres et qu'elle lui avait donné rendez-vous dans l'auberge où nous descendrions. Le cocher nous amena donc dans le Bishopsgate Street où nous trouvâmes M. Brompton. Il nous reçut poliment, mais il marqua quelques surprises de me voir arriver avec sa tante. Il ne savait pas que je serais du voyage. Madame Duval n'attarda pas à s'expliquer à mon égard. « Il faut que vous sachiez, dit-elle à M. Brompton, que je me propose d'emmener cette jeune fille à Paris pour lui faire voir le monde et pour la former un peu. D'ailleurs, j'ai encore d'autres dessins sur elle dont je vous instruirai plus en détail. Mais vous imagineriez-vous que ce vieux curé dont je vous ai parlé quelquefois a voulu la retenir ? Je compte cependant qu'il me paiera son refus, car je partirai avec elle sans dire le mot à personne. » J'étais stupéfaite d'une pareille ouverture, mais toujours suis-je heureuse d'avoir découvert les sentiments de Madame Duval. Je prendrai mes précautions en conséquence et je me garderai bien de la suivre hors de ville. » Après ces préliminaires, elle fit à M. Brompton le récit d'une grande partie des événements qui ont rendu son séjour à Howard Grove si remarquable. L'aventure du vol, comme vous pensez, ne fut point oubliée. Elle donna lieu à une explication. M. Brompton assura sa tante que, depuis son départ, M. Dubois n'avait point quitté Londres, qu'il était logé chez lui et qu'il n'avait point été en prison, que même il ne lui était arrivé aucun accident de cette espèce. Ces informations lui ouvrirent les yeux tout d'un coup, et elle commença à se persuader que toute cette aventure n'était qu'un jeu inventé par le capitaine. Là-dessus, des emportements horribles. Elle me fit un millier de questions l'une sur l'autre. Mon embarras était visible, mais sa colère ne lui permet pas d'y faire attention. La vengeance fut son premier cri de guerre, et elle résolut de se rendre dès le lendemain chez un juge de paix pour intenter procès au capitaine. Monsieur Branton ayant dit que sa famille et Monsieur Dubois nous attendaient chez lui, on fit avancer un fiacre qui nous transporta à Snow Hill. La maison de Monsieur Branton est petite et incommode, à la boutique près qui est vaste et belle. On nous conduisit au second, car les appartements du premier étaient occupés, à ce qu'on nous disait, par un nommé Monsieur Smith. Nous trouvâmes la famille Branton et un jeune homme que je ne connaissais pas. L'accueil que je reçus ne fut pas absolument gracieux, et on ne me cacha point que j'étais un hôte inattendu. Monsieur Dubois m'aperçut d'abord en entrant. « Ah, mon Dieu ! S'écria-t-il, vous voilà, mademoiselle !» Le jeune Branton. « Oh, bonté, oui, c'est Miss elle-même !» Miss Polly. « Je ne me serais jamais douté de sa visite. » Miss Branton. « Et moi non plus, assurément, sans quoi je ne l'aurais point reçue dans une chambre comme celle-ci. J'en suis vraiment honteuse, je n'attendais que ma tante seule. Après tout, c'est votre faute, Tom. Vous savez que j'ai voulu demander à M. Smith de nous céder son appartement, vous m'en avez empêché. Et voilà comme vous faites toujours, grogneur que vous êtes. » Le jeune Branton. « Et quel mal y a-t-il ? Ne dirait-on pas que Miss n'a jamais monté à un second étage ? » Je les priai de ne point se déranger le moins du monde pour l'amour de moi, et je les assurai que toute chambre m'était égale. Miss Polly. Eh bien, la première fois que vous reviendrez, Miss, nous vous recevrons dans la chambre de Monsieur Smith. Elle est au premier, très jolie et très bien meublée. Miss Branton. À dire vrai, je ne m'imaginais pas que la cousine viendrait nous voir en été. Cela n'est pas du bon ton. Et vous ne pouvez pas nous quitter décemment qu'en septembre, après l'ouverture des théâtres. » Telle fut la réception qu'on me fit, et je suppose, monsieur, que vous ne la trouvez pas excessivement cordiale. Madame Duval gronda sévèrement monsieur Dubois de ce qu'il avait négligé de lui donner de ses nouvelles. Après quoi, elle se mit à conter l'histoire de ses malheurs, ce qui attira l'attention de toute la compagnie. Ce récit produisit des impressions très différentes. Monsieur Dubois l'écouta en frémissant et il l'interrompit à tout moment par les gestes et les exclamations les plus lamentables. Les jeunes demoiselles semblèrent s'intéresser véritablement à leur tante, mais le sieur Branton Fils et l'étranger ne firent que s'en moquer. Madame Duval était trop échauffée pour les observer. Mais lorsqu'elle dit avoir été liée et jetée dans un fossé, le jeune Branton ne put se retenir plus longtemps et fit de grands éclats en protestant que ce conte lui paraissait des plus plaisants. Son ami ne fut pas plus modéré que lui et leur mauvais exemple entraîna également les demoiselles Branton, de sorte que la pauvre Madame Duval fut entièrement décontenancée et étourdie par les démonstrations d'une joie aussi déplacée. Il y eut un moment de rumeur. D'un côté, Madame Duval était en fureur. Monsieur Dubois avait l'air tout ébahi. Monsieur Branton père grondait. De l'autre, ses filles ricanaient, et les deux messieurs qui avaient donné le ton à tout ceci continuaient hardiment leurs éclats. En un mot, cette scène était digne de Bedlam. Ce ne fut qu'avec beaucoup de peine que Monsieur Branton parvint à rétablir l'ordre, moyennant quelques mauvaises excuses qu'il obligea les rieurs de faire à Madame Duval. Elle ne voulut les accepter ni consentir à poursuivre son récit qu'après qu'on l'eût assuré que ce n'était pas d'elle mais du capitaine seul qu'on s'était moqué. Cette défaite l'apaisa un peu et elle reprit le fil de son histoire qu'elle acheva tant bien que mal, non sans qu'il en coûtât bien des efforts aux jeunes gens pour l'écouter avec décence jusqu'au bout. Monsieur Branton, prenant la chose fort à cœur, prouva que le cas était de nature à être poursuivi en justice et que, puisque Madame Duval avait couru danger de mort, elle était en droit de réclamer les dommages qui lui plairaient. Il lui proposa le juge de paix Fielding pour conduire cette affaire. Madame Duval saisit cette idée avec beaucoup d'empressement et déclara qu'elle ne perdrait point de temps pour tirer vengeance du capitaine, dût-il lui en coûter la moitié de son bien. Car, ajouta-t-elle, quoique je n'estime point l'argent, dont, Dieu merci, je n'ai pas besoin, je ne souhaite rien de plus que de me venger de ce misérable. Il a une dent contre moi sans que je sache pourquoi, et depuis qu'il me connaît, il n'a cessé de me jouer toutes sortes de tours. Après le thé, Miss Branton me confia que l'inconnu que je voyais avec eux était l'amant de sa sœur, qu'il se nommait Brown, et qu'il était chapelier de sa profession. Elle me mit au fait de plusieurs autres particularités à l'égard de sa personne et de sa famille, et ne cessa de déclamer contre un parti si peu sortable. Elle alla jusqu'à dire que sa sœur était absolument sans cœur et sans ambition, que de son côté, elle aurait préféré 100 fois de mourir fille, plutôt que d'épouser un homme qui ne fût pas de façon. « Ce n'est pas, continua-t-elle, que ma sœur fasse grand cas de son amant. Seulement, elle s'est mise en tête d'être mariée avant moi, et voilà pourquoi elle se presse tant. Mais qu'elle aille à son train. Je ne prétends pas me mettre dans son chemin. Dussé-je n'être jamais mariée ?» Je ne fus pas plutôt débarrassée de cette confidente que Miss Polly eut son tour en me révélant les secrets de sa sœur. Elle m'assura avec un air de complaisance que celle-ci était extrêmement jalouse de ce qu'elle lui enlevait son droit d'aînesse. « C'est du moins, me dit-elle, ce que je lui fais à croire, car au fond, je ne me soucie pas trop de M. Brown, que je ne trouve pas absolument de mon goût. Qu'en pensez-vous, Miss ?» Je lui fis sentir que je n'étais guère capable de juger du mérite d'un homme que je ne connaissais pas. « Mais encore, vous pouvez en dire quelque chose ?»« Excusez, je n'aime point à juger sans connaissance de cause. »« Vous paraît-il bel homme, du moins ? Il y a des gens qui soutiennent qu'il est d'une figure agréable, mais quant à moi, je l'ai toujours trouvé fort laid. N'êtes-vous pas de mon avis, Miss ?»« Point du tout. Il me semble au contraire qu'il n'est pas mal. » »« Pas mal ? Et je l'espère, s'il vous plaît. En quoi donc aurait-il le malheur de vous déplaire ?»« En rien au monde, vous ne m'avez pas comprise. » »« Aussi, seriez-vous bien méchante si vous y trouviez à redire. » Biddy dit à la vérité que M. Brown est un homme dont on ne dit rien, mais c'est le dépit qui l'a fait parler. Il faut que vous sachiez qu'elle est furieuse de me voir recherchée avant elle. Mais elle est d'une fierté qui chasse tous les amants, et je lui ai prédit plus d'une fois qu'elle mourra fille. Le fait est qu'elle s'est mis de l'amour en tête pour un certain M. Smith qui loge chez nous. C'est un élégant qui ne voudra jamais d'elle. J'en suis d'autant plus sûre qu'il l'a dit l'autre jour à M. Brown qu'il déteste le mariage. Avez-vous communiqué cette découverte à votre sœur ? Oui, sans doute, mais elle n'y ajoute pas foi, il faut la laisser faire. Si elle est dupe ensuite, tant pis pour elle. Je vis arriver avec plaisir le moment où il fallut nous retirer. M. Branton nous prévint qu'il nous avait choisi des chambres dans Holborn pour avoir le plaisir de nous conserver dans le voisinage. Il eut la complaisance de nous y conduire. Nous sommes logés assez commodément dans la maison d'un bonnetier. Quel bonheur que je sois si peu connue, il s'en faut bien que ma situation soit digne d'envie. Tout ce que je souhaite, c'est de ne rencontrer aucune des connaissances que Madame Mirvan m'avait fait faire précédemment à Londres. Ce matin, Madame Duval, accompagnée de toute la famille des Branton, s'est rendue chez un juge de paix pour faire ses plaintes contre le capitaine. On m'a pressé beaucoup d'être de la partie, et je ne l'ai échappé qu'avec peine. J'attendais avec inquiétude le résultat de cette démarche, car je prévoyais qu'elle pourrait susciter à l'excellente Madame Mirvan des embarras fâcheux. Heureusement, l'affaire n'a point réussi. Le juge a représenté à Madame Duval que, puisqu'elle n'avait ni vu le visage, ni entendu la voix de celui qui l'a attaquée, elle était dépourvue entièrement de preuves et qu'il ne lui restait guère de probabilité pour obtenir gain de cause, à moins qu'elle ne pût produire des témoins. M. Branton, de son côté, est d'avis que ce procès pourrait devenir long et coûteux et que d'ailleurs le succès en serait douteux. Ainsi, il faut y renoncer. Madame Duval a acquiescé à la décision de ses deux experts, mais non sans murmurer. Elle se promet bien de prendre de meilleures précautions à l'avenir, s'il lui arrivait encore d'être attaqué par des voleurs. « Voilà donc enfin cette ridicule affaire terminée, sans que nous en ayons des suites plus sérieuses à craindre. Adieu, monsieur. Mon adresse est chez le sieur Damkins, bonnetier, dans le Holborn. Lettre 41. Evelina à Miss Mirvan. Holborn, 7 juin. Comment vous exprimer ma reconnaissance pour tant de marques d'affection dont vous m'avez comblé, vous, ma douce amie, votre respectable mère et l'excellente Lady Howard? Comment vous exprimer les regrets dont j'étais pénétrée en quittant des amies aussi tendres et aussi généreuses, auxquelles j'ai trouvé des sentiments qui font autant l'éloge de votre cœur qu'ils honorent celle qui a été l'objet de votre bonté? Mais pour ne pas tomber dans des redites, je vous renvoie à la lettre que je viens d'écrire à Madame Mirvan. Elle contient une faible expression de mes remerciements. Quant à vous, ma chère, je vous les épargnerai entièrement puisque vous me les avez défendues. Mais vous ne m'empêcherez point de conserver le souvenir de ce que je vous dois. Je passe à d'autres objets pour ne pas blesser votre délicatesse en appuyant trop sur celui-ci. Oh, ma chère Marie, Londres n'est plus cette ville où je goûtais tant de satisfaction lorsque j'étais avec vous. Tout y a pris pour moi une face nouvelle. Ma position n'est plus la même. Je ne retrouve plus mes sociétés. Je ne suis plus logée avec une amie de cœur. Tout a changé. Tout justifie le dégoût que j'ai eu pour ce voyage. Londres est aujourd'hui un désert à mes yeux. Cette apparence de gaieté et de grandeur que j'ai tant vantée a disparu. Tout ce que je vois porte une empreinte lugubre et ennuyeuse. Il n'y a pas jusqu'au climat que je ne trouve altéré. Un air grossier, des chaleurs excessives, beaucoup de poussière, des habitants ignorants et mal élevés, tel est du moins le tableau que m'offre la capitale dans le quartier où je réside. Vous souvient-il encore, ma chère Marie, du temps que nous avons passé ensemble à Londres? Pour moi, j'y pense souvent, très souvent. Mais je ne le rappelle que comme un songe, comme une vision passagère et chimérique. Avoir connu Mylord Orville, lui avoir parlé, avoir dansé avec lui, cela me paraît aujourd'hui une illusion de roman, et cette politesse élégante, ces attentions, cette délicatesse du grand monde qui le distinguait si avantageusement entre tous les autres hommes et qui nous remplissait d'estime et d'admiration pour lui, tout ce souvenir semble convenir à un être idéal créé par mon imagination plutôt qu'à l'espèce de gens avec laquelle je suis condamnée à vivre dans ce moment-ci. Je n'ai aucune nouvelle à vous marquer. La lettre que j'ai écrite à Madame Mirvan renferme déjà ce que j'avais à dire de Madame Duval et les aventures particulières me manquent entièrement à ma grande satisfaction. Dans ma situation actuelle, je n'ai point d'autre vœu à faire que de demeurer tranquille et inconnue. Adieu, ma chère amie, excusez le sérieux de cette lettre et croyez-moi toujours, etc. Evelina Hamville. Lettre 42. Evelina à Monsieur Villard. Holborn, 9 juin. Hier matin, nous fûmes invités à dîner et à passer la journée chez les Brampton. Monsieur Dubois, qui fut aussi de la partie, vint nous prendre et nous accompagna à Snow Hill. Le jeune Brampton nous reçut à la porte et m'annonça comme une grande nouvelle que ses sœurs n'étaient pas encore habillées. « Venez, miss, il faut les surprendre. Je parie que vous les trouverez devant le miroir. » Il voulut m'introduire chez elle, mais je l'en remerciai et je préférai de rester avec Madame Duval. Monsieur Brampton, père, se chargea peu après de nous y conduire lui-même. Il fallut le suivre et se résoudre à grimper les escaliers. Mais il n'eut pas plus tôt ouvert la porte que ses filles poussèrent de hauts cris. L'aînée surtout fut très mécontente. « À quoi pensez-vous, papa, de nous amener du monde avant que nous soyons habillés ?» Monsieur Brampton. « Ayez en honte, paresseuse. Voilà votre tante, la cousine et Monsieur Dubois qui vous attendent. Où voulez-vous que je les laisse ?» Miss Brampton. « Et qui leur a dit de venir si tôt? Je croyais que Miss se conformerait aux heures du grand monde et je ne l'attendais pas encore. » Miss Polly. « Il n'y a qu'à les reconduire dans la boutique, nous ne serons pas prêtes d'une demi-heure. » Monsieur Brampton se mit fort en colère et fit un tapage horrible. Nous n'en fûmes pas moins obligés de redescendre et de prendre place dans la boutique. Le frère se divertit beaucoup de ce que nous avions attrapé ses sœurs. Il jugea à propos de m'entretenir longuement de leur paresse et des querelles qu'ils ont souvent ensemble. Les demoiselles Branton, ayant enfin achevé leur toilette, vinrent nous joindre. Elles eurent un démêlé assez désagréable avec leur père et elles répondirent très impertinemment aux reproches justement mérités qu'il leur faisait. Cette scène amusa beaucoup le frère, ce qui engagea une seconde querelle. « Et de quoi riez-vous, monsieur Tom ? Il vous sied bien de vous moquer de nous quand papa nous gronde. Qu'est-il besoin que vous passiez la moitié de la journée à la toilette ? Vous n'êtes jamais prêtes, vous autres. En tout cas, cela ne vous regarde point. Mêlez-vous de vos affaires et laissez-nous avoir soin des nôtres. Jeune drôle comme vous êtes, savez-vous le temps qu'il faut à une femme pour finir sa toilette ? Jeune drôle, en effet, vous seriez bien aise un jour d'être à mon âge quand vous serez devenue vieille fille. » Ce dialogue amusant fut poussé jusqu'au moment où on servit le dîner. Nous remontâmes. Chemin faisant, Miss Polly me confia que sa sœur avait demandé la chambre de M. Smith, mais qu'il l'avait refusée en prétextant que, dans une occasion pareille, on y avait répandu de la graisse. Que, cependant, nous y prendrions le thé et que je devais m'attendre à voir un homme de bon ton, mis avec élégance, qui fréquente les bals et les assemblées, et tient un domestique en livrée. Nous fîmes un très mauvais repas. Des mets mal apprêtés, le service partagé entre une servante et les jeunes Branton, des querelles sans fin. Tout cela ne contribua pas à nous égayer, et bien moins encore à faire ressortir l'air de prétention et de fête qu'on affecta d'attacher à ce régal. À l'issue du dîner, Miss Polly me proposa de descendre pour voir les passants. Le jeune Branton. Vous aimez furieusement à faire les badaudes. Ce n'est pas votre beauté pourtant qui devrait vous y engager, car des visages comme le vôtre feraient peur aux chevaux. Miss Polly. Il appartient bien à un magot comme vous de parler de beauté, mais je vous conseille de ne pas prendre ses airs, sans quoi je dirai à Miss ce que vous savez. Le jeune Branton. Je m'en moque, dites-lui tout ce qui vous plaira. Je l'ai prié de se tranquilliser, puisque je ne prétendais pas savoir leur secret. Miss Polly. Ah, vous les saurez cependant. Pourquoi mon frère s'avise-t-il de faire l'impertinent ? L'autre soir. Le jeune Branton. Halte là, Polly. Si vous ne voulez qu'à mon tour, je raconte votre dernière aventure avec Monsieur Brown. Nous serons bientôt quittes, je vous en avertis. Miss Polly rougit, et pour détourner la conversation, elle me proposa une seconde fois de descendre dans la boutique en attendant que nous puissions entrer chez M. Smith. Miss Branton. C'est ce que nous pouvons faire de mieux, cousine. Notre rue est un grand passage et vous verrez bien du beau monde. C'est notre amusement favori quand nous sommes parés. Le jeune Branton. Elle ne ferait que cela toute la journée si mon père les laissait faire. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose quand vous les voyez le matin en négligé sale et en bonnet de nuit. Alors, elles restent nichées en haut dans leur chambre. Quelquefois, je leur envoie le jeune Brown. Cela les déconcerte horriblement. Elles courent, elles se cachent, elles crient comme des folles. Pour achever ensuite la pièce, je me mets à rosser les chats. Cela fait un chorus, un vacarme de tous les diables. Ce beau récit donna lieu à une nouvelle dispute qui dura jusqu'à ce que nous fûmes convenus que nous descendrions tous dans la boutique. En passant devant la chambre de M. Smith, Miss Branton eut soin de dire, assez haut pour être entendue, qu'elle était surprise de ce qu'on tardait tant à nous ouvrir cet appartement. Ce fut autant de peine perdue. M. Smith fit la sourde oreille et nous laissa continuer tranquillement notre chemin. Nous trouvâmes dans la boutique un jeune homme habillé de noir, appuyé contre le mur, les mains jointes et les yeux fixés contre terre. Toute son attitude annonçait un homme mélancolique, absorbé dans une profonde rêverie. Il se retira dès qu'il nous aperçut, et comme je vis que personne ne faisait attention à lui, je ne pus m'empêcher de m'informer qui il était. « Miss Branton, ce n'est qu'un pauvre poète écossais. » « Miss Polly. » Qui meurt de faim, je pense, car Dieu sait de quoi il vit. le jeune Brankton. De son savoir, apparemment, n'est-ce pas tout ce qu'il faut à un poète ? Miss Brankton. Surtout un poète comme celui-là, fier et gueux. Le jeune Brankton. Mais avec tout cela, il faut bien qu'il vive et qu'il mange. D'ailleurs, il n'est pas écossais pour rien. Ces gens ne viennent ici que pour vivre à nos dépens. La situation de cet étranger excita à la fois ma compassion et ma curiosité. Et je témoignai quelque envie de savoir d'autres détails. J'appris alors qu'il demeurait dans la maison depuis 3 mois, que dans les premiers temps, il s'était mis en pension chez les Brankton, mais que, bientôt après, il s'était retiré de leur table. « Depuis cette époque, ajouta Miss Polly, on ne lui a vu prendre aucune nourriture, et Dieu sait s'il a de quoi mettre sous la dent. Il a toujours eu un air abattu, mais pendant l'espace d'un mois, il nous a paru plus endormi que jamais. Il a pris le deuil tout d'un coup, sans qu'on sache pour qui ni à quelle occasion. Nous croyons que c'est uniquement par goût, car personne ne se met en peine de lui, et nous doutons qu'il ait une famille. Ce qu'il y a de plus certain, c'est qu'il est en arrière de 3 semaines de loyer, et ses fonds doivent être très bas. Quelques pièces de verre que nous avons trouvées de temps en temps dans sa chambre nous font juger qu'il est poète, ou du moins qu'il a un coup de hache. » Ils me montrèrent quelques fragments confus, écrits sur des feuilles volantes, sans ordre ni liaison. Ils portent tous l'empreinte d'une humeur mélancolique. J'y ai distingué un morceau que je crois digne d'être conservé. J'en ai pris copie et je vous le transcris ici. Ô vie humaine, douloureux et pénible mélange singulier de tous les maux, de toutes les vicissitudes de la nature. Tantôt tu flattes les malheureux mortels des plus belles espérances, tantôt tu les accables du poids cruel du désespoir. Ô homme, esclave de l'orgueil, tu ressembles à un enfant capricieux qui, sans connaître ce qui lui est utile, ne trouve du plaisir que dans les choses qu'on lui refuse et du dégoût que dans ce qui lui est accordé. Ô toi, dont la durée est si précaire et si courte, en butte au vice et à la folie, toujours tourmenté par l'indigence, la honte et le remords, ô vie ! À mesure que tu avances tes pas pénibles, tu sembles offrir à la jeunesse des couronnes et des fleurs, et tu réserves à la vieillesse des herbes venimeuses. Tu ne cesses de reproduire, sous des formes nouvelles, les maux les plus cruels. Ce morceau pathétique annonce un cœur en proie à la plus vive douleur. L'auteur m'intéresse, il doit lui être arrivé de grands malheurs. Mais je ne conçois pas comment il peut se résoudre à rester avec des personnes aussi insensibles et qui le méprisent, tant à cause de sa pauvreté que par préjugé national. Il faut qu'il ait de puissants motifs pour supporter leur dureté. Peut-être, hélas, est-ce la nécessité seule qui lui fait la loi. Je le plains sincèrement et je voudrais être en état de lui donner quelques secours. Dans cet intervalle, le domestique de M. Smith vint avertir Miss Brankton qu'elle pouvait disposer actuellement de la chambre de son maître parce qu'il allait sortir. Ce message gracieux n'augmenta guère ma curiosité de faire la connaissance de M. Smith. Son offre fut cependant acceptée avec empressement par les demoiselles Brankton et elles m'invitèrent d'en profiter. Je les priai de souffrir que j'allasse tenir compagnie à Mme Duval en attendant le goûter. Je retournai donc en haut, accompagné du jeune Brankton, qui me fit l'honneur de me présenter sa main, et je demeurai avec Mme Duval jusqu'à ce qu'on nous appelât pour prendre le thé. Alors, nous descendîmes tous. Les demoiselles Brankton étaient assises dans l'une des croisées et M. Smith était appuyé nonchalamment contre celle qui était à l'autre extrémité de la chambre. Ils se levèrent tous dès que nous entrâmes et M. Smith, pour montrer qu'il était le maître du logis, me conduisit fort obligeamment vers un fauteuil qui était placé au haut bout. Il ne fit attention à Mme Duval qu'après que je me fus levée pour lui céder mon siège. M. Smith se mit peu en peine du reste de la compagnie, et s'attachant à moi seul, il entama la conversation dans un style galant qui m'était également nouveau et désagréable. Il est vrai que Sir Clement Willoughby m'a assez accoutumé aux compliments et aux propos doucereux, mais son langage, quoique trop recherché, est du moins celui d'un homme comme il faut, et il y aurait de l'injustice à le mettre en comparaison avec les habitants de cette maison. M. Smith veut paraître gai et spirituel, mais sa vivacité est maussade et toutes ses manières me déplaisent au point que si j'avais à choisir entre sa pétulance et sa stupidité, je me déciderais pour celle-ci, fût-elle même aussi hébétée que Pope nous l'a dépeint. M. Smith me fit mille excuses de ce qu'il avait refusé sa chambre pour le dîner, et il ajouta qu'il n'aurait assurément pas commis cette impolitesse s'il avait eu l'honneur de me voir plus tôt, qu'il se croirait trop heureux si, dans la suite, je voulais bien disposer de lui. Je lui répondis que tous les appartements de cette maison m'étaient également indifférents, et en cela j'accusais juste. À vous dire vrai, madame, les demoiselles Branton n'ont soin de rien, sans quoi ma chambre serait très fort à leur service. Je ne demande pas mieux que d'obliger le beau sexe. C'est là mon fort. Mais la dernière fois que je l'ai reçue chez moi, elles ont mis la chambre dans un état à faire peur. Or, quand on aime la propreté comme moi, vous sentez bien que cela ne fait pas plaisir. Quant à vous, madame, ce n'est pas la même chose. Et je vous le proteste, dût-on ruiner tous mes meubles, je ne croirais pas avoir acheté trop cher le plaisir de vous être utile. Trop heureux encore de ce que je possède une chambre qui soit digne de vous recevoir. Je ne vous citerai plus rien de notre conversation. Il suffira de vous dire que je fus obsédé pendant toute la soirée de cet ennuyant personnage. Il eut tout le temps d'excéder ma patience, malgré les efforts qu'il fit pour paraître à son avantage. Adieu, mon cher monsieur. Je suppose que vous serez là d'entendre parler de ces gens-ci. Mais il faut bien que je vous entretienne d'eux, car je ne vois pas d'autre société. Heureux le moment où je pourrai les quitter et retourner à Berry Hill.